Short Stories avec Émilie Glory. L'intendant Ralph de Miss Mary Elizabeth Braddon, traduit de l'anglais par Charles Bernard Derone. Extrait du recueil « L'intendant Ralph et autres histoires » paru aux éditions Hachette en 1863. Chapitre 5 « Le retour de l'intendant » Agnès Marlowe retourna à Scarborough. Sa santé était perdue, son esprit absent. Et il y avait des gens dans Aulnay qui partageaient l'opinion de Dudley Carleone et pensaient que sa raison avait été ébranlée par la mort prématurée de son prétendu. Les 4 premiers mois du mariage de Jenny Carleone s'écoulèrent tranquillement. Dudley était un mari tendre et complaisant, et il était impossible de trouver la moindre des choses à dire sur lui dans sa nouvelle position. La ferme grise était certainement un triste séjour pour Jenny, dont la vie s'était passée en grande partie dans un pensionnat du West End à Londres. Mais elle avait son piano, ses livres, ses instruments de dessin, un petit chien et un vieux poney gris sur lequel elle faisait des promenades dans les champs de son mari, tandis qu'il surveillait les ouvriers. Car depuis le départ de Ralph, Dudley s'était entièrement consacré à l'exploitation de sa ferme. Pas un mot n'avait jamais été prononcé par Mistress Carleone au sujet de son entrevue orageuse avec Agnès Marlowe. Souvent, au milieu de la nuit, elle s'éveillait soudain, à côté de son mari endormi, avec l'écho de ses paroles terribles qui résonnaient à ses oreilles, comme si quelqu'un venait seulement de les lui répéter sur son oreiller. Elle les avait toujours considérées comme le résultat d'une hallucination provenant d'un cerveau affaibli, mais elle ne pouvait pas plus les oublier, qu'elle eût pu oublier son propre nom. Assise quelquefois dans la demi-obscurité, auprès du feu dans la grande salle basse boisée en chêne, entourée des ombres tristes des meubles massifs sur les murailles en bois noirci, ses idées aussi éloignées que possible de la scène du matin de son mariage et dirigées sur une chose ou l'autre, en un instant, dans une seconde, un chuchotement sifflait à son oreille et le plus distinctement du monde lui faisait entendre ces deux horribles phrases « Dudley Carleone a empoisonné son frère Martin ». Martin Carleone est mort des suites d'un poison lent qui lui a été administré par son frère. Mais ce n'était point ce qu'il y avait de plus affreux, car elle crut s'apercevoir que peu à peu, elle se répétait continuellement ces mots, comme il nous arrive souvent de répéter malgré nous un vers d'une chanson en vogue. À sa couture, occupée de ses pinceaux et de ses couleurs, au piano même, elle se surprenait, répétant intérieurement ces affreuses paroles. Elle s'adaptait aux notes de ses morceaux de musique favoris, et elle tremblait en songeant qu'un jour, elle pourrait les prononcer tout haut. La nouvelle année arriva, froide et pluvieuse. Le temps forçait Jenny à rester enfermée à la maison. Dudley était souvent dehors. Elle recevait peu de visites de ses anciennes connaissances d'Aulnay, qui craignaient la promenade humide sur les bords fangeux de la rivière. Pourquoi avait-elle épousé Dudley Carleone? Elle se posait quelquefois cette question, comme si, à la suite d'un long sommeil, elle se fût réveillée dans un pays inconnu. Elle ne l'aimait pas. Elle ne l'estimait même point. Mais elle lui avait laissé prendre un tel ascendant sur elle que ce n'était que de temps à autre qu'elle s'en souvenait et qu'elle se demandait avec étonnement « Pourquoi l'ai-je épousée ?» Elle n'était point malheureuse, seulement quelquefois, elle se sentait seule et remplie de frayeur dans cette maison isolée, aux chambres peu confortables, au plafond bas en chêne, qui semblait vouloir descendre un jour tout doucement et l'écraser. La jeune femme si gaie devint grave et sérieuse sous les ombres de cette ferme silencieuse. Dudley, malgré sa tendresse, était froid et réservé, et avait quelquefois des distractions et des préoccupations d'esprit si étranges et si tristes que sa femme hésitait à lui adresser la parole. Elle s'asseyait devant son chevalet, le crayon à la main, et ses couleurs séchaient sur sa palette, tandis qu'elle examinait son visage sévère et qu'il avait les yeux fixés sur le charbon enflammé. Quelquefois, son silence avait un effet si oppressif sur elle qu'elle se glissait furtivement hors de la chambre et restait absente pendant plusieurs heures, puis le retrouvait lorsqu'elle rentrait, dans la même attitude, sans avoir changé de position, et le regard fixement attaché sur un monceau de cendres noires. Il s'excusait de ses longues rêveries, en disant qu'il était fatigué, qu'il travaillait trop, que la direction de la ferme lui donnait beaucoup de mal, ou bien qu'il était inquiet à propos de sa propriété dans le Buckinghamshire. Un matin, vers la fin de janvier, il trouva une lettre sur la table à thé et reconnut l'écriture grossière de son intendant. Cette lettre était plus longue que d'habitude, et Jenny vit à la figure de son mari que son contenu n'était pas agréable. « Jenny, je serai forcée d'aller dans le Buckinghamshire, » dit Dudley. « Dans le Buckinghamshire? Pourquoi ?» Ralph m'informe par sa lettre qu'il a quelques difficultés à propos de la ferme et qu'il a besoin de mes conseils avant de faire la moindre démarche. Il faut que je parte ce matin même. » Avant qu'elle eût pu lui répondre, il avait froissé la lettre dans ses mains, l'avait jetée au feu et avait quitté la chambre. Elle l'entendit donner l'ordre de lui amener son cheval de suite. Il rentra en toute hâte pour lui dire adieu, promit de revenir dans le Lincolnshire dans un ou deux jours et partit au galop pour atteindre le train express de Londres. Sa réserve et le caractère taciturne de son mari, Jenny se sentit malheureuse de sa première absence. Les domestiques et les grossiers laboureurs de la ferme lui étaient totalement inconnus, leur langage même était inintelligible pour elle. Elle était solitaire et mal à l'aise parmi eux. Elle errait de chambre en chambre, dans ses appartements vides, dans lesquels de grandes fenêtres dégarnies s'ouvraient sur un ciel glacé d'hiver, et elle espérait et priait pour le retour de Dudley. Deux jours et deux nuits et une bonne partie du troisième s'écoulèrent, et il n'était point de retour. « Il arrivera cette nuit, » dit-elle. Et elle faisait allumer d'énormes feux dans les cheminées jusqu'à ce que les flammes arrivassent à hurler dans les vastes foyers et qu'une lueur rouge se refléta sur chaque panneau des vieux lambris en chêne. Il faisait un froid très vif. Cependant, à 5 heures, heure à laquelle le train de Londres arrivait, elle sortit avec un châle jeté négligemment sur sa tête et resta longtemps regardant avec inquiétude dans la direction du triste sentier qui côtoyait le bord de la rivière. Elle ne revint à la maison que lorsque les horloges d'Aulnay sonnèrent les 3 quarts. « Il arrivera par le train de 9 heures, » disait-elle. Mais 7, 8, 9, 10 heures sonnèrent. Le feu baissait et son cœur s'affaiblissait d'ennui et de solitude car il ne revenait point. La vieille femme de charge et la camériste qui la servait l'engagèrent à aller se coucher, car 10 heures était une heure tardive pour la ferme grise. Mais il y avait un train de poste qui arrivait à Aulnay à 1h30 du matin, et Jenny insista pour attendre en cas que son mari arrivât par celui-là. Elle envoya les domestiques se mettre au lit, après s'être fait montrer par l'une d'elles les secrets des verrous, des barres et des chaînes de la porte d'entrée, et les feux ayant été rallumés, elle s'assit sur sa chaise basse auprès du foyer pour passer les 3 heures qui devaient s'écouler avant le retour de son époux. Elle s'approcha de plus en plus du feu qui flambait. Elle s'enveloppa dans un châle épais, mais en dépit de tout, elle tremblait horriblement. « J'ai attrapé la maladie de Martin Carleone, » dit-elle, « sur le bord de cette sombre rivière. » Ces paroles semblèrent faire courir un frisson jusqu'au fond de son cœur, car elles lui rappelèrent la scène du jour de son mariage et l'épouvantable accusation d'Agnès Marlowe. Dans l'ombre et dans un coin de la chambre était suspendu un portrait du dernier propriétaire de la ferme, une figure franche et ouverte avec de longs cheveux châtains et des yeux bleus. L'idée du défunt la poursuivit dans sa solitude. Elle essaya de détourner sa vue de la peinture. Elle tourna le dos au panneau auquel le portrait était accroché. Mais si cette image allait quitter sa sombre toile, descendre silencieusement derrière elle et mettre sa main impalpable sur son épaule ? Elle n'était point superstitieuse, mais son existence monotone avait affaibli ses nerfs et elle se sentait comme si elle eût été seule avec la mort. Mais si ce portrait allait prendre la forme d'un fantôme et s'approcher d'elle ? Que ferait-elle si, en se précipitant vers la porte pour échapper à son étreinte, elle trouvait cette porte fermée et découvrait qu'elle était emprisonnée avec cet effrayant compagnon ? Et si ses lèvres peintes se desserraient par miracle et d'une voix n'ayant rien d'humain, venait lui dire que les paroles prononcées par Agnès Marlowe étaient la vérité la plus solennelle et la plus affreuse ? Une sueur glacée perla en grosses gouttes sur son front pur. « Je deviendrai folle, dit-elle, si je reste longtemps seule ici. » Elle se leva de sa chaise une fois, résolue d'appeler une des domestiques, mais elle n'eut pas le courage de traverser la grande salle, ni l'escalier de service conduisant à leur chambre. À peine eut-elle le courage de passer devant le portrait qui était appendu entre la cheminée et la porte. Que deviendrait-elle si vraiment elle était atteinte de la même affection ou de la même fièvre qui avait tué le frère de son mari, et si elle était étendue sur un lit et pendant des semaines soignée et surveillée par Dudley Carleone ? Chacune des syllabes prononcées par Agnès lui revenait à l'esprit, et il lui semblait voir son mari marchant d'un pas tranquille, avec son visage blême, la main tremblante, faisant teinter le verre mince des fioles à médecine. Les lentes aiguilles de la pendule sur la cheminée tournaient silencieusement. Elle entendait le son éloigné de l'horloge de l'église d'Aulnay. Les quarts lui paraissaient l'heure entière dans son impatience fiévreuse. Une heure. Une heure un quart, une heure et demie, une heure trois quarts, deux heures un quart. Les dernières cendres blanches tombèrent à travers les barreaux de la grille du foyer. Trois coups, frappés avec force, retentirent sur les épais panneaux de la porte d'entrée. « Oh, que le ciel soit béni, que le ciel soit béni !» s'écria-t-elle en s'élançant de son siège. « Combien j'ai été folle et que je puis me moquer de moi à présent qu'il est de retour !» Saisissant une lumière placée sur la table, elle courut vers le vestibule et commença à ouvrir les fermetures de la porte, tenant la lumière d'une main et de l'autre, tirant sur les verrous avec une agitation nerveuse, mais pleine de joie. « Dudley !» s'écria-t-elle. « Dudley, je ne serai pas longtemps. Ayez de la patience, je ne serai pas longtemps. » Mais les coups violents retombaient sur la porte, et une voix rude, étouffée, et rendue indistincte par l'épaisseur du bois, proférait des paroles d'impatience. Une terreur soudaine s'empara d'elle. « Aurait-il bu, mon Dieu ? » pensa-t-elle. Sa voix paraît si creuse et si étrange. « Dudley, c'est fini, j'en suis venue à bout. » Elle tourna la clé, après un violent effort, et laissant retomber la chaîne, ouvrit la porte à deux battants. Elle ressentit pour la première fois quelque chose, comme si elle eût aimé Dudley Carleone. Elle voulait se jeter dans ses bras et s'attacher à lui pour obtenir aide et protection. Un homme, portant un chapeau de feutre rabattu sur sa figure, une veste de couleur sombre, des guêtres en cuir et des bottes à gros clous, s'avança sur le seuil. La partie inférieure de son visage était cachée dans une cravate épaisse en grosse laine, mais deux yeux gris et sombres brillaient sous les bords de son chapeau. Jenny ne se rappelait point avoir vu cet homme auparavant, mais le coup qu'elle reçut en rencontrant un étranger au lieu de son mari lui donna un courage qui ne lui était pas habituel. Elle saisit une corde qui pendait près de la porte. Cette corde communiquait à une grosse cloche au faîte de la maison, qui servait à appeler les ouvriers à l'heure des repas, ainsi qu'à les éveiller le matin. « Qui êtes-vous ? » dit-elle, tandis que l'individu laissait tomber avec force un bâton noueux et un paquet enveloppé dans un mouchoir de coton rouge, et se préparait à passer devant elle, se dirigeant vers les cuisines. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « L'intendant de Monsieur Carleone. Et peut-être ai-je le droit d'entrer dans cette maison, aussi bien que Master Carleone lui-même » répondit cet homme d'un air insolent. Ah, vous êtes Purvis, l'intendant, n'est-ce pas? Votre maître vous a donné l'ordre de revenir?
Oui, je suis Purvis.
Mais mon maître ne m'a point donné l'ordre de revenir. Mais vous, ma charmante petite aux cheveux frisés, qui êtes-vous?
L'épouse de votre maître, répondit Jenny avec hauteur.
L'individu la fixa avec insolence pendant un instant, avant de répondre.
La quoi? De mon maître?
Son épouse, Mistress Carleone,
dit-elle, le regardant en plein visage, effrayée mais courageuse, devenue forte par l'insolence de cet homme.
Ralph, l'intendant, partit d'un bruyant éclat de rire. La femme de Dudley Carleone, sa femme légitime et véritable? Ah, vous êtes cela, vous? Donnez-moi la lumière, dit-il en lui arrachant le chandelier d'argent d'entre les mains. Laissez-moi vous regarder un peu alors, car vous êtes un objet de curiosité.
La main de Jenny n'avait point lâché la corde. Elle la tira avec force et la cloche résonna dans la tranquillité de cette nuit d'hiver.
Une demi-douzaine d'hommes arrivèrent à demi-vêtus, en dégringolant l'escalier de service avant même que la cloche eût fini de tinter.
« Cet homme dit qu'il est l'intendant de mon mari, » dit Jenny pendant qu'il se pressait autour d'elle. « Conduisez-le à sa chambre et surveillez-le. Il m'a insultée, et comme il est ivre, évidemment, je n'aurai point d'explication avec lui avant le retour de M. Carleone. « Dites à Sarah de monter dans ma chambre, James, » ajouta-t-elle en s'adressant à l'un des valets de ferme dont elle connaissait la figure. « Je ne veux point dormir seule dans la maison pendant qu'un tel homme est sous mon toit. »«
Oh, en vérité, la fille, croyez-vous que je vous assassinerai ?»«
Je crois que vous êtes un misérable, » répliqua Jenny, se retournant vers l'intendant, tandis qu'il montait lentement le large escalier.
« À votre place, je ne resterai point ici du tout, mademoiselle, puisque vous êtes si peureuse, » dit Ralph avec un rire étouffé.
Il y en a d'autres que moi, peut-être, qui ont sujet d'avoir peur à la ferme grise.
Chapitre 6 Dans l'horreur de la nuit. Dudley Carleone revint de bonne heure le lendemain matin et trouva sa femme retenue par un violent rhume et Ralph Purvis assis auprès du feu dans la cuisine fumant sa pipe. Le jeune homme ne s'attendait pas évidemment au retour de son intendant. « Qui vous a amené ici ? » demanda-t-il avec colère.
« Mes affaires et les vôtres, » murmura Ralph, sans ôter sa pipe de sa bouche.
Dudley Carleone ne répondit point, mais se dirigea vers la salle à manger dans laquelle lui et Purvis se renfermèrent pendant près de 2 heures. Pendant le cours de cette longue entrevue, les domestiques entendirent plusieurs fois les éclats de voix de leur maître, paraissant en colère, mais pas une seule fois celle de l'intendant. Mistress Carleone descendit le soir prendre sa place habituelle auprès de la cheminée, dans le salon garni de bois de chêne. Elle avait raconté à son mari la conduite de Ralph à son arrivée. Elle lui avait dit, en un mot, qu'il lui était impossible de vivre heureuse tant que l'intendant serait dans la ferme.
« Ma chère Jenny, cet homme m'est malheureusement si utile que je ne puis me passer de lui, » dit Dudley. «
Mais je vais le renvoyer dans le Buckinghamshire, dans une semaine, au plus tard. Pendant ce temps-là, cependant, il faut qu'il vous demande excuse. »
Il sonna et l'intendant parut, tortillant son chapeau entre ses deux grosses mains, obséquieux, poli et respectueux, complètement différent de ce qu'il avait été à 2h30 du matin. Il s'excusa d'une manière étudiée et diffuse, avec une politesse servile, mais avec une figure boudeuse et un regard faux dans ses yeux gris enfoncés. Il semblait qu'on lui eût tracé d'avance ce qu'il avait à dire, et presque comme si c'eût été une leçon apprise dans un livre. Mais le motif principal de son excuse était qu'il avait bu et avait la tête un peu troublée, comme il appelait cela. Mistress Carleone salua avec gravité lorsqu'il eut terminé.
« Alors, vous y réfléchirez, Jenny ?» demanda son mari.
« Oh, certainement, » répliqua-t-elle froidement, en détournant la tête car elle ne pouvait supporter le regard des yeux brillants de l'intendant fixés sur elle. « Si Agnès m'eût dit que cet homme était un empoisonneur, j'aurais presque pu le croire, » pensa-t-elle, lorsque Ralph quitta la chambre. Le rhume de Jenny dura quelques jours, et sur la demande de son mari, le médecin d'Aulnay vint un matin lui rendre visite. « Une légère attaque de grippe, dit-il, pas davantage. Mistress Carleone est un peu affaiblie. Je lui enverrai quelques médicaments fortifiants. »«
Ce n'est point une maladie, n'est-ce pas ?» demanda Jenny avec inquiétude.
« Une maladie ? Oh, certes non, rien de ce genre. Ni une fièvre ? Non, vous n'avez pas la moindre fièvre. »«
Quoi, Jenny ? Mais à quoi pensez-vous ? » demanda son mari.
« Je songeais à la mort de votre frère Martin et je me demandais si j'avais quelques-uns de ces symptômes. »
Dudley Carleone fit un bond sur sa chaise, regarda alternativement le visage de sa femme, puis, avec un profond soupir, il dit en se rasseyant.
« Le ciel ne le voudrait pas, Jenny. Une mort semblable à celle du pauvre Martin est assez dans une famille. »
Mistress Carleone était assise devant une croisée, et levant les yeux dans ce moment, elle aperçut le sombre visage de l'intendant entre elle et le ciel d'hiver. Il était monté sur une courte échelle, occupé à couper les branches d'une plante grimpante qui poussait sur le mur de la maison, et vit qu'il avait ouvert d'environ 2 pouces le haut de la croisée pour en retirer une branche qui s'y était introduite.
« Je voudrais bien vous voir renvoyer cet homme à votre autre ferme, Dudley, » reprit-elle. « Il est continuellement à rôder partout dans la maison. »
Les médicaments n'arrivèrent qu'assez tard dans la soirée. Malgré tous ses efforts, Jenny ne put oublier ce qu'avait dit Agnès Marlowe, et elle se demanda si son mari s'offrirait de les lui administrer. Il était assis à son bureau en train d'écrire lorsque la femme de chambre apporta les fioles et ne tourna même pas la tête du côté de Jenny lorsqu'elle les ôta de leur enveloppe.
« Je vais prendre mes médicaments, Dudley, » dit-elle.
« Très bien, Jenny, » répondit-il sans lever la tête.
Elle éprouva un grand soulagement en le voyant si indifférent. Elle n'avait jamais pu penser qu'elle en arriverait à le soupçonner, mais il lui sembla qu'elle venait d'être délivrée d'un poids énorme par cette circonstance si simple. Le lendemain et le surlendemain, elle continua à prendre ses médicaments sans que son mari y fît la moindre attention. Il était doux et prévenant, demandait des nouvelles de sa santé, mais ne disait rien touchant son traitement. Évidemment, il attachait très peu d'importance à cette légère indisposition. Le 3e jour, le médecin revint à la ferme grise. Il trouva Jenny à sa place habituelle, près du feu. Dudley lisait le journal en face d'elle, et Ralph Purvis était en train d'arranger la serrure de la porte. L'intendant était très adroit comme serrurier, menuisier ou peintre, et il semblait toujours avoir quelque chose à faire dans la maison. Cette fois, le médecin parut soucieux en tâtant le pouls de la malade.
« Vous n'avez point pris mes médicaments, Mistress Carleone ?» dit-il.
« Si, en vérité, je les ai pris régulièrement, n'est-ce pas, Dudley ?»«
Mais, pour parler franchement, je ne vous ai point surveillé de très près, pour témoigner de votre sincérité, Jenny, » répondit son époux.
« Alors il y a plus d'affaiblissement que je ne pensais, Mistress Carleone. Nous allons essayer cependant de vous rétablir. » Les yeux de Jenny se portèrent involontairement sur le portrait de Martin Carleone.
« Y a-t-il de la fièvre ? » demanda-t-elle en regardant avec inquiétude le visage du médecin pendant qu'il lui tâtait le pouls.
« Mais oui, je crois qu'il y en a un peu, » dit-il avec une certaine hésitation. Son visage devint pâle tout à coup. Elle se leva de sa chaise et sembla vouloir se sauver hors de la chambre. L'intendant Ralph, à genoux sur le seuil de la porte, à demi ouverte, faisait du bruit avec la serrure qu'il raccommodait. Agenouillé où il était, il paraissait présenter une barrière infranchissable entre la maîtresse de la ferme grise et le monde extérieur. Dudley Carleone laissa tomber le journal en se levant avec vivacité. « Jenny, Jenny, qu'avez-vous ? » « Je veux sortir de cette maison, » répondit-elle en regardant autour d'elle d'un air égaré. « Je veux fuir, je sais que si je reste ici, je mourrai comme il est mort. » Elle désignait le portrait de Martine accroché au mur devant elle. « Jenny Carleone. Oh, pardonnez-moi. » « Pardonnez-moi, Dudley, » reprit-elle en se jetant dans les bras de son mari et pleurant convulsivement. « J'ai confiance en vous, je vous estime, je vous respecte et je vous aime. Je sais combien je suis folle, je m'en veux pour ma folie. Mais j'ai peur, j'ai peur. »
C'était « L'intendant Ralph » de Miss Mary Elizabeth Braddon, traduit de l'anglais par Charles Bernard de Rhône, extrait de « L'intendant Ralph et autres histoires » publié par la librairie Hachette en 1863. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre la musique du compositeur John Lunn avec deux extraits de la bande originale de la série télévisée Downton Abbey créée par Julian Fellowes. Après Damage et Deception, nous nous quittons avec Life After Death interprété par The Chamber Orchestra of London. Rendez-vous le mois prochain pour la suite et la fin de cette nouvelle.